Si vous le permettez, je voudrais essayer de dire un peu ce qu'est le carême à partir d'une image. Vous avez tous vécu cette expérience de devoir préparer votre maison pour quelqu'un qui doit venir, je ne sais pas, 8 jours ou 15 jours chez vous. Vous savez, c'est la personne, le vieil oncle, la grand-mère, mais celle qui fait l'unanimité, aussi bien chez les enfants que chez les parents, aussi bien chez la maîtresse de maison que chez le mari. C'est celle qui est à la fois tellement discrète tout en étant présente, tellement drôle et en même temps profonde, tellement positive et en même temps stimulante, tellement aidante dans les différents services et en même temps à l'écoute des uns et des autres, tellement consolante et en même temps fortifiante, tellement aimante et en même temps pas trop collante et pleine de délicatesse. C'est la personne idéale, quelque part. Je ne sais d'ailleurs même pas si elle existe vraiment. Et donc, à cette joie d'accueillir cette personne pendant 8 jours ou 15 jours, bah, la maison, excusez-moi, elle n'est pas extensible à l'infini. Hein. Elle a un nombre de chambres. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une chambre en plus. Et donc, qui veut bien laisser sa chambre à cette personne? Moi. Ok, bah, ça sera dans ta chambre à toi parce qu'il y a pas mal de lumière. C'est plus joli. Donc, c'est la chambre d'un tel, d'un des enfants, certainement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut ranger. Parce qu'il faut préparer de la place dans le placard, dans les tiroirs. Et puis, c'est une maison, et donc, il y a plein de choses. Donc, tout le monde se lance dans le rangement. Et non seulement il faut ranger cette chambre pour qu'elle soit propre, nette, belle, et qu'il y ait de la place, mais donc, les bouquins qu'on retire là, il faut les mettre ailleurs. Et donc, si on doit les mettre ailleurs, il faut ranger ailleurs. Et donc, il faut finalement ranger toute la maison. Et tout le monde s'y met. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les gens se mettent à râler. Ils râlent pourquoi? Parce qu'ils disent « Moi, je veux bien ranger ce que j'ai dérangé, mais je ne veux pas ranger ce que je n'ai pas dérangé. » Et comme on ne sait pas qui a dérangé ça, personne ne veut ranger. Et voyez, le carême, je crois que c'est cela. C'est dans cette joie incroyable que cette personne que je vous ai décrite, il n'y a pas de doute, c'est le Seigneur, lui seul est comme ça. Dans cette joie qu'il vienne chez nous, eh bien nous devons ranger pour qu'il y ait de la place, pour qu'il puisse venir. Et nous devons accepter de ne pas simplement ranger ce qui est en désordre dans ma vie personnelle, mais de ranger aussi ce qui est du désordre du monde. Parce que le Seigneur vient pas seulement pour nous, il vient pour le monde. Et donc je vais devoir ranger un peu le monde. Et c'est lourd et c'est fatigant. Mais je vous promets qu'après le labeur du rangement, il y a l'arrivée de la personne. Et vous verrez, c'est merveilleux. Eh bien, voyez, c'est cela le temps du carême. Et c'est comme cela que nous pouvons comprendre pourquoi, alors même que je commence mon carême, que j'ai pris des bonnes résolutions, je me dis... C'est toujours un sacré combat spirituel. Eh bien oui, dans ce rangement du temps du carême, je dois ranger non seulement ma propre vie, c'est déjà pas si simple, mais la vie du monde, un peu chacun pour une part. Et donc il est normal que notre combat spirituel soit si dense, si violent, si fatigant. Mais donc ne perdons pas de vue pourquoi nous le faisons. Et donc aujourd'hui, je voudrais... Et si vous donnez le contenu de ce combat spirituel pour vous permettre de vivre ce carême le plus paisiblement et en même temps le plus courageusement sans vous désespérer. Voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer en tout cas. Alors ce combat spirituel, l'ennemi, ben, il s'attaque à quoi? Il s'attaque à l'essentiel. Et quel est l'essentiel? L'essentiel... C'est ce lien qu'il y a entre Dieu et nous. Et ce lien entre Dieu et nous, on peut le résumer par trois voies, qui sont finalement les vertus théologales. Vous savez, ces vertus qui ont leur source en Dieu, leur objet en Dieu et leur fin en Dieu. La foi, l'espérance et la charité. tous nos combats touchent au moins la foi, l'espérance ou la charité. Quels que soient vos combats, c'est là-dessus. Et donc c'est là-dessus que notre défense doit se faire. Si nous défendons la foi, l'espérance et la charité, c'est bon. On va y arriver. Si nous ne défendons pas cela, ça va être chaud. Alors, premier point, je commence par la foi. Donc ça sera toujours en deux points, chacun de ces points. Premier point, faire l'état du désordre, de ce qu'on doit ranger. Et deuxième point, comment on le ranger. Alors, les désordres de la foi. Donc la foi, hein, la vraie foi, la foi dans le Christ, c'est ce qui nous ouvre à la confiance. Et de cette confiance, alors, j'arrive à être fidèle à mes engagements. Alors je vous donne une petite liste, hein, c'est un petit catalogue, pardon, qui n'est évidemment pas exhaustif, qui évidemment, hein, on fait ce qu'on peut, parce que vous voyez bien qu'il y a notre liberté, et il y a notre histoire avec notre psychologie, et il y a des domaines sur lesquels on est plus fragile, et qu'on ne peut pas résoudre sur Terre, parce que voilà. Donc vous voyez, chacun, dans ce que je vais dire, il faut mettre un peu d'eau dans votre vin, parce que ce que je dis est un peu trop tranché, mais il faut bien que je dise quelque chose. Par rapport à la foi, finalement, il y a ceux qui ont une confiance en eux-mêmes qui frisent la présomption et qui frisent l'orgueil. Petit test que nous pouvons faire, c'est est-ce que, à chaque fois que je prends une décision importante, est-ce que je me pose la question « Que ferait le Seigneur à ma place ?» Ou est-ce que finalement, je prends la décision et puis après, j'espère que le bon Dieu va valider. C'est souvent ce qu'on fait. Ou après, j'en parle à mon père spirituel en me disant « J'espère qu'il va être d'accord. » Ben écoutez, comme vous avez déjà tranché, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis coincé. Deuxième lieu par rapport à notre foi, et finalement ça peut être aussi lié, parce que quelquefois nous sommes présomptueux dans une confiance en nous-mêmes, et en même temps nous manquons de confiance en nous-mêmes. Quelquefois notre confiance en nous-mêmes, elle est pleine de désespoir et de tristesse. Petit test, est-ce qu'il m'arrive de me dévaloriser? Est-ce qu'il m'arrive de ne pas oser faire des choses alors même que ceux qui me connaissent et qui m'aiment, qui me disent « Vas-y, tu feras ça très bien. » Non, 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 je suis vraiment pas capable. Non, non, je suis nul, je n'y arriverai pas. Est-ce que je fais confiance à ces personnes qui, a priori, sont pleines de bon sens et donc je me jette à l'eau? Ou est-ce que je me dis « Non, non, mais moi, je suis nul. » Ça, c'était par rapport à soi. Maintenant, par rapport aux autres. Il y a ceux qui ont une confiance excessive. Par exemple, certains, c'est leur mère ou leur père. Ah là là. Leur mère ou leur père, c'est le bon Dieu. On pourrait presque leur donner le bon Dieu sans confession. Mais à personne, on peut donner le bon Dieu sans confession. La seule confiance absolue, elle est en Dieu. Et nous voyons bien que c'est dangereux, cette confiance que j'ai vis-à-vis de telle ou telle personne, ou même d'un prêtre, quelquefois, certains, le père Intel, c'est presque la réincarnation de Jésus. Non, c'est aussi un homme pécheur. Et donc, il faut vite que je voie son péché, grâce à ça, je le mette à sa juste place. Et j'accepterai ce qu'il peut me dire dans ce qui est bon, mais j'accepterai ses limites. Ben, il est comme moi, pécheur. Autre élément par rapport aux autres, hein, c'est finalement cette défiance excessive. Je ne fais confiance à personne. Bah, que vous ne fassiez pas confiance au voleur qui vous a volé, je veux bien. Mais tout de même, je peux peut-être faire confiance à ma femme, ça fait 40 ans qu'on est mariés. Vous voulez attendre combien? 60 ans pour lui faire confiance? Ou à votre mari, hein. Je continue. Par rapport à Dieu, le manque de confiance en Dieu. Petit test, finalement, Dieu ne s'intéresse pas à moi, il ne s'occupe pas de moi. Est-ce que je crois, comme on l'a entendu dans la première lecture, est-ce que je suis capable de dire « Oui, il a entendu ma voix, il a vu que j'étais dans la misère, la peine et l'oppression. » Est-ce que je crois cela en permanence? Alors même que sans doute, hein, ils ont dû attendre des générations avant que Moïse soit envoyé. Et donc vous voyez bien que la réponse de Dieu n'est pas immédiate. Comme nous, nous prions, on se dit « Bon, tu ne m'as pas répondu, Seigneur, ok, tu n'existes pas. » Ça règle la question. Non, non, Dieu, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et donc nous devons accepter que peut-être ça prend du temps pour des raisons qui nous dépassent. Vos pensées ne sont pas mes pensées, comme Jésus nous le disait. Maintenant, remède. Eh bien, si vous avez bien entendu l'Évangile, le remède contre ces désordres de la foi, c'est finalement ordonner notre foi sur la parole de Dieu. Comme nous le disons dans la messe, « Dis une seule parole et je serai guéri. Dis une seule parole et je serai sauvé. Est-ce que je crois que Dieu, par une seule parole, peut me sauver, peut me guérir ? Est-ce que je m'attache à cette parole ? Est-ce que je peux dire comme Saint Pierre, au moment de la pêche miraculeuse, « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans prendre de poisson. » Toute la nuit, hein, quelque part, « Seigneur, nous avons peiné toute notre vie dans cette nuit de la foi, mais sur ta parole, alors je vais jeter les filets. » Et donc, est-ce que cette parole, je la connais, je la garde dans mon cœur, j'obéis à cette parole, je vis de cette parole, je reprends régulièrement cette parole, comme je prends mes petits cachets régulièrement. Voilà, la parole est finalement ce qui fait grandir notre foi. Deuxième point, les désordres contre l'espérance. Alors, quels sont l'état des désordres ? Il faut que j'aille plus vite. Tous ces pardons où je me dis « Non, on ne pardonnera jamais ça, Dieu ne me pardonnera pas ça, ma famille ne pardonnera pas ça, je ne pardonne pas cela moi-même. » Je manque d'espérance sur moi-même. Ou alors, non, j'arriverai jamais à me corriger. Je suis colérique, je n'arriverai jamais à me corriger. Je ne crois pas qu'avec la grâce de Dieu, pas à pas, Dieu va m'aider. Je ne crois pas qu'il peut me faire avancer comme il le veut. Et qu'il y a déjà quelque chose qui se fait, même si je ne le vois pas. Je ne le crois pas. Je ne l'espère pas. Autre lieu, finalement, ce manque d'espérance où je suis sans cesse à craindre de manquer quelque chose. Je ne vais pas avoir ceci, je ne vais pas avoir cela, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et je suis sans arrêt dans cette crainte de ce qui va arriver. Je manque de cette espérance du bonheur que Dieu m'a promis. Finalement, je n'espère pas vraiment. Et puis, il y a ceux qui ont cette mauvaise espérance. Peu importe, je n'ai rien à faire, Dieu va tout récupérer, et donc je n'ai pas à faire d'efforts. Alors là, excusez-moi, c'est pas la vraie espérance. La vraie espérance, c'est tout de même « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et donc Dieu nous a donné une liberté. Et donc je suis dans cette espérance que Dieu me donne sa grâce. Mais Dieu me dit « Va encore plus loin dans ton espérance. Crois que cette grâce te permet d'agir dans ta liberté. Et donc pose un acte. Fais quelque chose. » Comment guérir un peu notre espérance ? Eh bien, je crois, c'est de comprendre que nous devons ordonner notre espérance non pas simplement sur « ça va aller mieux, il ne va pas me tomber de tuiles sur la tête, ça Dieu ne nous le promet pas, l'Église ne nous le promet pas », mais ce qui nous est promis, c'est quoi ? Ce sont les promesses du ciel. Oui, je crois que tout ce que j'ai semé aujourd'hui dans ma vie, eh bien, trouvera sa pleine récolte au ciel. Oui, je crois, tout ce que j'ai donné, je recevrai ma récompense au ciel. Ton Père dans le ciel, qui voit dans le secret, eh bien, te donnera cette récompense. Elle est là, notre espérance. Hein, pensez, si vous avez du mal à espérer, prenez la figure de Saint Dismas, le bon larron. Le bon larron, il est vraiment dans cette espérance, il se reconnaît pécheur, il fait confiance à Dieu, et Dieu lui dit « Eh bien, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. » L'espérance qui lui est proposée, c'est le ciel. C'est pas « tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas souffrir. » Si, il va sans doute souffrir sur la croix, il va mourir. Mais je te promets que par cet acte de foi et de remise à Dieu, et qui est un acte concret de ta liberté, eh bien, tu recevras le fruit de ta confiance et de cette reconnaissance de ta pauvreté. Troisième et dernier point, les désordres contre la charité. Voilà, tous ces manques d'amour par rapport aux autres. Bon, je passe. Tous ces manques d'amour par rapport à nous-mêmes. Est-ce que j'accepte de recevoir des compliments des autres ? Est-ce que j'accepte ? Est-ce que je connais mes talents ? Est-ce que j'ai des talents d'abord ? Bon. Et puis aussi, tous ces manques de charité par rapport à Dieu. Vous Vous savez, on représente souvent qu'au moment où le Christ s'est incarné, eh bien les idoles tombent. Il n'y a plus d'idoles. Ben, je crois que ce n'est pas encore tout à fait vrai. Il y a plein d'idoles. Quelles sont vos idoles? Si vous dites que vous n'en avez pas, c'est que vous ne les avez pas vues. Pour certains, c'est leur mari, leur femme, leurs enfants, leurs parents, leur travail, leur sport, leurs livres, leurs idées, leur liberté, leur indépendance. Et donc, est-ce que je peux accepter de lâcher cette idole pour Dieu, qui est celui qui veut mon très bien? Et comment ordonner la charité? C'est ce que nous dit encore le dernier combat avec le Christ. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est toujours accepter de mourir à soi-même. Il faut que je laisse une place à l'autre pour aimer, sinon je ne peux pas aimer. Et donc, ce qu'on a entendu dans l'Évangile, on a tous peur de mourir. Est-ce que finalement, en mourant à l'autre, je ne vais pas me perdre moi-même? Et c'est vrai, c'est une bonne question. Et là, la réponse à ça, c'est ce que nous dit Jésus. Il dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et quelle est l'épreuve ultime? C'est l'épreuve de la mort. Et comment Jésus y répond? Il est dans cette confiance, en tes mains je remets mon esprit. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il accepte de mourir pour aimer. Et en mourant, en se remettant, il peut ressusciter. Et je crois que ce qui peut nous donner la force d'aimer jusqu'au bout, quitte à mourir, c'est de contempler le Christ ressuscité. C'est de croire que à chaque fois que j'aime et donc que je meurs un peu plus à moi-même, eh bien alors je me prépare à ressusciter. Et j'allais dire, quelquefois concrètement, on le fait. Quand j'ai vraiment aimé concrètement, j'ai une expérience de mort, mais dans ce don à moi-même, il y a comme une résurrection, je me découvre plus vivant par cet acte plus essentiel d'aimer l'autre. Voilà, Seigneur, viens nous assurer dans notre foi pour que nous puissions vraiment tenir cette foi par ta parole. Ouvre toujours plus notre espérance à cette promesse du ciel et viens ressusciter toujours plus notre amour sur ta personne. Amen.